Il est 5h58, Mathieu Noël.
Et c'est l'heure de faire un point sur la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. Aujourd'hui, vous êtes généreuse, soleil pour tout le monde.
Allez, donnez. Oui, avec pas mal de passages nuageux.
On embrasse Enrico aussi, s'il nous écoute.
On a par exemple quand même un ciel bien voilé ce matin de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France. Pardon. J'adore Enrico Mathias. Alors, débrouillard pour le sud.
Il sera ravi de l'apprendre.
Ils vont se dissiper. En revanche, ce sera déjà bien ensoleillé pour tout l'est du pays. Alors cet après-midi, du mieux, de larges éclaircies partout, encore des passages nuageux assez nombreux entre la Gironde, le Limousin, la région centre, la Bourgogne et toutes les régions au nord de la Seine. Et puis on a toujours une instabilité entre les Alpes-Maritimes et la Corse, où on aura encore quelques coups de tonnerre cet après-midi.
Mais surtout, il fait chaud.
Mais oui, on attend 27 degrés à Nîmes, à Auch, 25 à Cognac, à Perpignan, 24 à Tours ou encore à Paris, 23 à Bourges, 22 à Caen, 19 pour la plus basse à Nice, sous la pluie avec cet après-midi ces orages. Et puis ce matin, la moyenne va de 7 à 16 degrés du nord au sud. Il en fait 10 à Lille, 12 à Paris et 14 en ce moment à Biarritz.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire. Et à ce titre, j'aimerais ce matin dire le bonheur qui est le mien de travailler avec une journaliste aussi compétente que Céline Kalman. C'est sur les bancs du CFJ qu'elle a intégré ce qui fait aujourd'hui son ADN, cette déontologie journalistique qui consiste à toujours recroiser ses infos, à ne jamais prendre pour argent comptant une rumeur ou une apparence, une éthique qu'on a vue une nouvelle fois à l'œuvre hier alors que, durant une coupure pub, nous regardions sur CNews la montée des marches du Festival de Cannes et où, à ma question, mais comment fait pour avoir l'air si jeune encore, Céline me répondait...
Bah, il se botoxe la gueule, hein. Bah, tu crois quoi? Bah, évidemment.
Remets-moi une suite. Heureusement, debout les copains, c'est aussi la rigueur de Fabrice Dalméda. Ce matin, à l'occasion du top départ des élections européennes, Fabrice revient sur la plus belle relation « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis » de l'histoire des nations, celle entre l'Europe et le Royaume-Uni.
Merci d'écouter Europe 1, en ce jeudi 23 mai. Et très bon réveil, il est 6h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 23 mai. Bonjour Céline Kalman.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Dernier meeting, dernier débat avant le scrutin de dimanche pour les européennes. Nous serons à Nîmes avec François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains. Les puéricultrices et assistantes maternelles se mobilisent une nouvelle fois pour dénoncer le projet du gouvernement d'assouplir les conditions d'accueil des bébés, en particulier dans les crèches. Et puis Rudy Garcia et l'Olympique de Marseille, c'est fini. L'entraîneur a été poussé vers la sortie après 2 ans et demi dans le club.
Europe 1.
Le dernier débat avant le scrutin des européennes, ce sera donc ce soir chez nos confrères de BFM avec les têtes de liste et notamment François-Xavier Bellamy chez les Républicains. Il était hier soir en meeting à Nîmes. En quelques mois, il est devenu la coqueluche de la droite. Aurélie Herbemont.
À chaque meeting, le même refrain.
J'ai été hypnotisée par sa prestation, scotchée. C'est la première fois que je ressens ça quand je vois un discours politique. C'est vraiment, il est formidable.
Je suis une inconditionnelle de Monsieur Bellamy.
Époustouflée. Je le trouve brillant. Je trouve que c'est l'avenir de la droite. C'est une tête d'affiche superbe.
Ça n'empêche pas les sondages de rester bloqués autour de 13%. Un colistier de François-Xavier Bellamy lâche. Sans Wauquiez, on ferait 3 ou 4 points de plus. Les militants ont beau adorer aussi le patron du parti, le philosophe pourrait bien finir par faire quelques jaloux.
Ah, il supplante ses aînés, hein, c'est certain.
Même Laurent Wauquiez ?
Pas que. Il est à part, celui-ci.
Vous le voyez devenir quoi, une fois qu'il sera député européen ?
Président de la République. Pourquoi pas, il me plairait beaucoup.
Ça, Laurent Wauquiez, il aimerait pas trop, quand même.
On verra. Vous savez, il faut laisser le temps au temps.
Au Parlement européen, il sera loin des yeux, loin du cœur, tempère un élu. Quant à Laurent Wauquiez, il constate que la fierté d'être de droite revient, grâce à lui donc, car il ne manque pas de rappeler qu'il s'est battu pour imposer François-Xavier Bellamy. Nîmes, Aurélie Herbemont. Europe 1.
Hier soir sur France 2, il y avait également un débat, échange de fonds sur le climat, le pouvoir d'achat, mais aussi une passe d'armes entre Laurent Wauquiez et Marine Le Pen. Laurent Wauquiez qui a taclé la patronne du Rassemblement National en espérant qu'elle n'était pas dans le tempérament du second tour de la présidentielle. Réponse de Marine Le Pen, j'espère que vous aurez un jour la possibilité de faire un débat au second tour. Les Britanniques votent dès aujourd'hui pour les élections européennes, scrutin qui ne comptera pas si les Britanniques valident le Brexit avant l'été. La première ministre Theresa May, elle pourrait démissionner dès demain Des élus de son propre parti conservateur ont rejeté ses propositions. Dans l'actualité aujourd'hui, le premier conseil de défense écologique voulu par Emmanuel Macron, plusieurs ministres ainsi que le chef du gouvernement seront aux côtés du chef de l'État pour tenter de répondre aux enjeux environnementaux.
Si vous avez des enfants en crèche, vous êtes peut-être concerné aujourd'hui par un mouvement de grève.
Oui, nouvelle mobilisation, 2 mois après une journée d'action des puéricultrices et assistantes maternelles qui s'inquiètent d'un projet d'ordonnance du gouvernement. Aujourd'hui, il manque entre 200 et 300 000 places en crèche. Les explications d'Ève Roger.
Compliqué pour le gouvernement de tenir sa promesse de 30 000 nouvelles places en crèche sans assouplir les règles d'accueil et d'encadrement réclamées haut et fort par les entrepreneurs du secteur. C'est la raison pour laquelle le projet d'ordonnance prévoit d'abord de simplifier la règle du nombre d'encadrants par enfant. Aujourd'hui, il faut un adulte pour 5 bébés, les plus petits, ceux qui ne marchent pas, et un adulte pour 8 pour les plus grands. Le gouvernement fait plusieurs propositions, mais pousse plutôt pour la plus simple, un adulte pour 6 enfants, quel que soit leur âge. Autre évolution, le nombre de mètres carrés par enfant. Il resterait à 7 mètres carrés, comme aujourd'hui, sauf dans les zones denses où il pourrait descendre à 5,5 mètres carrés par enfant. Plus d'enfants dans moins de mètres carrés, c'est inacceptable pour les grévistes comme Jessica, auxiliaire de puériculture à Paris.
On aura des enfants qui ne seront pas bien accueillis. On ne pourra pas les faire des activités correctes, on ne pourra pas donner une alimentation correcte. Donc là, en fait, l'apprentissage, on passera complètement à côté. Là, on ne sera plus sur de la bienveillance, on sera sur de la maltraitance et c'est vraiment le mot qu'il faut employer.
Le gouvernement s'est donné 2 mois, jusqu'au 15 juillet, pour trouver un terrain d'entente avec les personnels du secteur.
Ève Roger, coups, insultes et humiliations, le jeune homme qui avait agressé Julia, une femme transgenre, fin mars, place de la République à Paris, a été condamné hier à 10 mois de prison, dont 4 avec sursis.
6 millions de voitures d'occasion sont vendues en France chaque année. Attention aux arnaques, Céline.
Les derniers chiffres de la répression des fraudes révèlent que dans une vente sur 2 faite par un professionnel, il y a une petite fraude. Concernant les 4 millions de transactions qui se font entre particuliers, là on parle de 15% d'arnaques. Alors pour guider les futurs acheteurs, les plateformes en ligne se sont développées. Aurélien Fleureau.
À la recherche d'une voiture, Didier, qui habite dans l'Aveyron, tombe sur l'offre d'un garagiste, un véhicule vendu par un particulier qui rentre dans ses critères. Mais pour être vraiment rassuré, il s'inscrit sur une plateforme en ligne, entre la plaque d'immatriculation et obtient, pour moins de 10 euros, toutes les informations nécessaires.
J'ai voulu me renseigner pour connaître un peu l'origine du véhicule. Dans le monde actuel où c'est que les escroqueries sont courantes, ça permet de se conforter dans l'acquisition d'un véhicule, qui sont des biens quand même qui ont une certaine valeur et qui sont toujours sujettes à questionnement quand on est l'acquéreur, quoi.
La plateforme s'appelle Auto-Origine et fonctionne comme un tiers de confiance. Pas inutile quand 10% des voitures d'occasion sont vendues avec un compteur kilométrique trafiqué et que les fraudes au paiement se multiplient, explique son fondateur Fabien Cohen-Solal.
Du coup, nous, à partir d'un rapport, vous pouvez faire une proposition d'achat au vendeur du véhicule d'un simple clic. S'il accepte votre proposition, votre argent est mis sur un compte séquestre, il ne sera débloqué que lorsque l'acheteur reçoit bien le véhicule devant lui et que ça correspond bien.
Et la demande ne cesse de croître. En à peine 2 ans d'existence, la plateforme reçoit déjà plus de 150 000 visites par mois.
Aurélien Fleureau, 28 femmes yazidis et leurs enfants sont arrivées hier soir en France, à Toulouse. Ces femmes martyrisées en Irak par les terroristes de l'État islamique sont accueillis dans le cadre d'un programme pour les réfugiés, un programme qui a déjà permis à 16 familles de s'installer en France.
On reparle des 6h06.
Il nous a tous fait perdre quelques points au bac, mais on l'aime quand même. Après plus que quelques jours avant Roland-Garros, l'occasion de rencontrer ce matin une femme extraordinaire.
Oui, elle s'appelle Hélène Salvetta, c'est une passionnée de tennis et elle a 97 ans. Cette mamie landaise s'est fixé un nouveau défi, participer l'an prochain aux États-Unis à la compétition réservée aux plus de 90 ans. Le reportage de Stéphane Place.
Robert. Ouais, bien joué.
Regard pétillant et large sourire. Dès qu'elle sort la raquette du sac et qu'elle rejoint le court ici à Tartas, Hélène Salvetta oublie ses 97 ans. Elle a pratiqué tout au long de sa vie la natation, l'équitation, le surf, la danse. Mais sa grande passion demeure le tennis.
L'amour du jeu. J'aime bouger, j'aime vivre. J'ai fait beaucoup de compètes à Paris, en Amérique, partout. J'adore ma raquette. Je sais que j'ai un certain âge, ou un âge certain, mais je veux gagner.
Malgré un AVC il y a 2 ans, Hélène s'entraîne 2 fois par semaine avec son coach Franck Hervy.
Vu tout ce qui lui est arrivé ces derniers temps, revenir sur un terrain de tennis, rejouer comme elle le fait, même les médecins n'en reviennent pas.
Admiratif, Jacques, le mari d'Hélène, souligne la volonté de fer de son épouse qui soigna les blessés lors de la bataille d'El Alamein en 42 et qui fut aussi chef d'escale dans une grande compagnie aérienne.
Hélène a toujours été une passionnée en toutes choses. Elle pense toujours aller aux États-Unis l'année prochaine pour un tournoi en plus de 90 et je pense qu'on va y aller parce qu'elle ne veut pas lâcher.
Passionnée, Hélène a un chouchou dans le tennis mondial, Roger Roger Federer, un jeu impeccable, dit-elle.
Allez.
Tartas, Stéphane Place, Europe 1.
Merci beaucoup, c'était le journal de Céline Kallmann. Et je sais ce que vous vous dites, pourquoi je l'aime? Pourquoi mon cœur ne bat-il que pour elle? Eh bien, peut-être au fond, parce qu'elle et moi, on est les mêmes. Même esprit salace, même ironie maladive. Ainsi, hier, alors que je me lançais dans une diatribe magnifique, enflammée, empoulée et lyrique sur ma plume, Céline faisait astucieusement remarquer « Sommet humoristique, disais-je, qu'on doit beaucoup à ma plume. Plume alerte, plume caustique, mais plume... »
Tu remplaces plume par...
Dans mes bras, Carabia. On se comprend, vous et moi. J'aurais fait la même.
Europe 1.
5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique. Le fact-checking par l'histoire. Aujourd'hui, Fabrice Dalméda revient sur une relation tumultueuse. Mais non, non, mais non, là on gagnera quand même en sérieux, puisqu'à l'occasion du début des élections européennes, Fabrice évoquera l'histoire de deux amants qui ne se sont jamais très bien compris. Pas Céline Dacosta et moi, mais l'Union Européenne et le Royaume-Uni.
Bon, allez à tous, il est 6h08. Il est 6h09, Mathieu Noël.
Et c'est l'heure de faire un point sur la météo de ce 23 mai. Céline Dacosta, il fait très beau, on peut le dire. Vous cherchez votre famille, c'est inutile, car il fait beau et il fait chaud surtout.
Oui, effectivement, des températures estivales, on peut le dire, hein, puisque la moyenne cet après-midi ira de 20 à 27 degrés. Côté ciel, bah, c'est plutôt pas mal. On a encore pas mal de nuages, surtout ce matin, un voile nuageux au nord de la Seine. On a des brouillards dans le sud-ouest, tout ça va se dissiper. Nuages et éclaircies pour tout le monde cet après-midi, à part, petit bémol, entre les Alpes-Maritimes et la Corse, où ça reste encore perturbé, avec des pluies cet après-midi, voire quelques coups de tonnerre encore, un petit peu comme hier.
Merci Céline et Varoc.
À l'occasion de l'anniversaire de Michel-Édouard Leclerc, on se demandait un peu comment vous faites vos courses tous les jours. Est-ce que c'est en hypermarché? Est-ce que c'est dans les commerces de proximité, voire sur Internet? Eh bien, depuis ce matin, 5h sur Twitter, avec l'hashtag Europe 1, vous nous répondez. Et Gecko, il est assez symptomatique, de ce que font beaucoup de gens. Supermarché pour les produits de base, viande chez le boucher,
oui,
fromage,
c'est le mieux,
chez le bien, vous suivez. Et pour les fruits et légumes, rien ne vaut les petits commerçants ou le marché de proximité. Et Noël, elle nous dit pareil, achat sur le marché, chez les commerçants des produits locaux, et elle va au supermarché uniquement pour ce qu'elle ne trouve pas en proximité. Et en faisant cela, elle nous dit, je fais des économies et je mange mieux et c'est bon. Voilà.
Ben voilà, une belle chute.
C'est
et
bien,
bah,
c'est vrai.
C'est très bien. Merci à tous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il nous vient du pays de l'Ovalie. Il connaît les vertus de l'engagement physique, de l'abnégation, de l'impact. Il sait les dangers de la mêlée, coup de pied, fourchette. Lui-même, s'il a beaucoup reçu, a également beaucoup donné.
Et là, l'olive.
Ah, magie de l'Ovalie. On passe au journal des sports, voici Jérôme Lacroix.
Magie.
J'ai pas compris.
À la une, vous savez pas ce qu'est une olive, mais vous renseignerez. À la une, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'apéro, Eva. À la une, demandez le programme.
Tirage au sort du premier tour de Roland-Garros ce soir. Le premier tour du Grand Chelem de tennis parisien démarre dimanche. On va en connaître les premières affiches et déjà la possibilité pour les joueurs de se projeter sur les tours suivants quand ils regardent le tableau. Ah. Où est Nadal? Où est Federer? Est-ce que je suis dans sa partie de tableau?
Quand est-ce que je suis en vacances?
À quel moment du tournoi suis-je susceptible de le rencontrer? Et parfois, c'est vertigineux. L'ancien champion Guy Forget, aujourd'hui directeur du tournoi, se met à la place de certains joueurs, peut-être moins bien classés, notamment certains Français.
Effectivement, un garçon comme Adrien Manarino ne veut surtout pas savoir contre qui il va jouer. D'autres, à l'inverse, se projettent, regardent le tableau. Bon, alors là, au premier tour, ça devrait aller. Au deuxième, je joue le vainqueur tel et tel joueur. Ah bah tiens, j'ai un os au troisième tour. Donc, ce qui prouve que certains sont peut-être plus sereins que d'autres.
Roland Garros à suivre à partir de dimanche sur Europe 1, radio officielle du tournoi. On a hâte aussi de savoir qui sera le premier adversaire de Roger Federer, le champion suisse absent des trois dernières éditions.
Le foot, Jérôme, et la Coupe du Monde à 48 équipes, ça ne sera pas en 2022 au Qatar.
Élargir le nombre de participants de 32 à 48 aurait rapporté 350 millions d'euros à la Fédération internationale, mais impossible pour 2022. L'idée était que certaines rencontres se tiennent dans des pays frontaliers du Qatar, mais impossible vu le contexte géopolitique instable. Le tournoi doit passer à 48 en 2026. Le mondial féminin, ça débute dans deux semaines en France. Les Bleus ont reçu hier à Clairefontaine un soutien et pas des moindres. Zinedine Zidane, venu dans le cadre d'un perfectionnement de sa formation d'entraîneur. Ces Françaises qui sont enfin au complet parce que ça y est, les joueuses de Lyon sont arrivées, auréolées d'un nouveau titre en Ligue des Champions. Hein, voilà qui insuffle au groupe une touche de fraîcheur mais aussi une touche d'ambition. La sélectionneur Corinne Diacre.
On surfe aussi, nous, un petit peu sur cette vague de l'Olympique lyonnais, puisqu'elles nous ont apporté déjà un titre supplémentaire. Elles apportent également de la joie de vivre. Et puis maintenant, il nous reste à faire comme elles. Voilà, aller jusqu'au bout.
Et premier match de préparation, France-Thaïlande, samedi à Orléans. En bref, fin de l'histoire entre l'OM et Rudy Garcia, l'entraîneur poussé vers la sortie. Après 2 ans et demi à Marseille, il finit sur un échec à la non-qualification de l'OM pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Et puis le cyclisme, Arnaud Démare reprend ce matin le départ de la 12e étape du Tour d'Italie, paré du maillot de meilleur sprinter, le Picard, qui a failli remporter hier une 2e étape d'affilée. Il est arrivé 2e derrière l'Australien Ewan.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
C'est la colère de l'athlète américaine Allyson Felix. 7 médailles d'or olympiques, c'est le record féminin. Tribune dans le New York Times, elle y attaque Nike, son équipementier sponsor, qui l'a, dit-elle, sanctionné financièrement après sa grossesse. Émolument réduit de 70% sur le nouveau contrat. Elle a demandé à Nike une garantie qu'elle ne soit pas pénalisée financièrement si ses performances étaient moins bonnes suite à sa grossesse. Nike a refusé. Les sportives qui veulent tomber enceinte doivent être mieux protégées, dit-elle. Nike a réagi en promettant de changer les choses.
Oui, quand même. On est quand même en 2019. Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et à l'heure d'accueillir, avec tous les égards dus à son rang d'agrégé, Fabrice Dalméda, le monsieur Histoire d'Europe 1, j'aimerais en profiter pour saluer le bel esprit d'équipe qui règne dans cette émission. En effet, si l'un de nous se prend les pieds dans le tapis, il peut toujours compter sur l'autre pour lui tendre une main secourable et la retirer au dernier moment pour l'achever d'une petite gifle rieuse.
Et c'est sûr, Hugo a reçu une pension du roi Louis XVIII et de ses Oh, j'ai encore buté.
Non, pas trop.
Oh, coquinette, là. C'est très moche.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui débutent les élections européennes en Grande-Bretagne. Ce sont en principe les dernières prévues avant le Brexit. Mais comment se sont déroulées les précédentes, en particulier les premières élections au suffrage universel direct?
Les premières, c'était en 1979. Après les ratés initiales, puis le veto du général de Gaulle, l'Angleterre entrait enfin dans le marché commun. Les Britanniques avaient voté par référendum en 1975. Le parti travailliste, John Callaghan, y était très favorable, mais les conservateurs, emmenés par leur nouvelle leader, Margaret Thatcher, font la course en tête car, en 1979, plus de 60% des électeurs regrettent maintenant d'avoir intégré la communauté économique. Une communauté européenne qui a investi pas moins d'1,6 million en euros en spots télévisés pour les convaincre. Mais, au soir de ces premières élections, la première ministre Margaret Thatcher triomphe. Avec 48% des suffrages, elle remporte 60 des 78 sièges britanniques.
Et comment se sont déroulés les scrutins suivants ?
En fait, les partisans de l'Europe ont gagné des sièges dans les élections suivantes, en 1984, 1989. C'était les travaillistes, l'alliance entre les libéraux et les sociaux-démocrates qui avaient renforcé leur position. Mais à l'élection de 1994 apparaît un minuscule parti qui n'a guère obtenu que 1% des voix. Le parti indépendantiste United Kingdom Independent Party. En 1999, ce dernier profite même du nouveau mode de scrutin à la proportionnelle pour obtenir des élus aux dépens des conservateurs. Son succès s'amplifie dans les élections suivantes.
Et UKIP, c'est le parti fondé par Nigel Farage, mais aujourd'hui, il porte les couleurs du Brexit Party.
Oui, l'ancien financier Nigel Farage avait fondé UKIP et l'a quitté en 2016 après le référendum pour la sortie. Il était devenu animateur de radio. Mais en 2019, devant les retards du retrait britannique, il crée le Brexit Party, donné aujourd'hui à plus de 30% par tous les sondages. 40 ans après, ce sont bien les élections européennes qui ont fait voler en éclats tout le système politique britannique.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. Et ce matin, un jeune homme passionnant qui est parti d'un constat simple. Eva, comment se porte la Terre ?
Elle en peut plus, la vieille.
C'est une manière bien cavalière de parler de notre belle planète, mais oui, ça va pas fort. Les citoyens doivent agir, mais surtout les entreprises. Jadis tournées exclusivement vers le profit, de plus en plus de jeunes entrepreneurs veulent faire en sorte que business puisse rimer avec éco-responsabilité. C'est tout l'enjeu du World Impact Summit qui démarre. À 6h20, nous serons avec son créateur, le génial Nicolas Pereira. Et si, comme moi, vous pensez que les entreprises qui disent veiller à leur impact environnemental et social, c'était du greenwashing, écoutez, vous risquez de changer d'avis. Ce pourrait qu'on soit vraiment un tournant.
Bon réveil à tous, il est 6h18. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Premier conseil de défense écologique aujourd'hui à l'Élysée, une instance qui doit réunir régulièrement les ministres et les opérateurs de l'État mobilisés contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité. Le groupe britannique British Steel, repreneur de l'ex-aciérie Ascoval de Saint-Saulve, placé sous administration judiciaire. Le gouvernement a tenté de rassurer hier les salariés, précisant que le plan d'affaires du site français ne dépendait pas des activités britanniques. Enfin, Soluprède, Cortensil, Celestène, les médicaments contenant de la cortisone quasi introuvable. L'agence du médicament demande d'en limiter la prescription aux cas indispensables.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici donc pour les titres de ce jeudi 23 mai. Et l'actualité, c'est aussi le World Impact Summit qui débute aujourd'hui à Bordeaux, un sommet international réunissant des entrepreneurs engagés dans l'économie à impact écologique et social positif. Bonjour Nicolas Pereira.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes entrepreneur et vous êtes le créateur de ce rendez-vous. Un entrepreneur à impact positif. Ça a l'air bien comme métier, mais c'est quoi exactement?
Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a, dans les jeunes générations notamment, une volonté chez les entrepreneurs de ne pas simplement faire une entreprise pour, entre guillemets, rechercher le profit, qui est la base qu'on pourrait définir pour une entreprise, mais de plutôt être une entreprise engagée. Et donc, nous, en fait, on se revendique en tant que moi-même entrepreneur, des entrepreneurs engagés, c'est-à-dire qu'on met aussi dans l'objectif et dans l'objet de l'entreprise la volonté de l'intérêt général ou en tout cas du bien-être commun et donc de faire en sorte que l'activité de l'entreprise elle ait un impact social, environnemental qui soit positif.
Mais aujourd'hui, on résonne dans un monde où la plupart des entreprises, si on prend cette définition à l'envers, sont des entreprises à impact négatif.
Absolument. Alors, à impact, souvent négatif, effectivement, concernant l'écologie, qui est le cœur du sujet de notre sommet international des solutions pour la planète. Mais c'est en train de changer. Donc, nous, on veut accompagner et réunir l'ensemble de ces acteurs qui, aujourd'hui, sont en train de changer de modèle.
Alors, moi, je vous arrête maintenant. On fait un petit point. Parce que, dans l'absolu, je sais ce que se disent peut-être certains de nos auditeurs. Ils se disent, ça sent la lubie de Bobo qui veut changer le monde, mais en fait, l'entreprise restera toujours l'entreprise. Je dis non, avant même que vous puissiez répondre. Parce que, dans mon entourage, je note que beaucoup de gens de votre génération, vous êtes jeunes, vous avez 28, 29
27.
Ans, 27 ans, changent de job assez rapidement après avoir commencé dans le marketing, dans la finance, que sais-je, pour créer soit leur entreprise, soit aller vers des secteurs justement à impact positif, comme vous dites. Il faut le dire, c'est donc un changement de fond qui est en train, c'est encore peut-être petit, mais c'est en train de prendre de l'ampleur.
C'est en train de prendre de l'ampleur et ça se voit très bien chez les jeunes générations, notamment chez les étudiants. Nous, en tant qu'entreprise, aujourd'hui, on reçoit beaucoup de candidatures de jeunes qui sortent des grandes écoles. Autrefois, quand on sortait d'une grande école, on allait effectivement dans un grand groupe du CAC 40 et on avait une carrière tracée. Ça a vraiment changé, ce modèle-là n'existe plus ou presque plus. Et les jeunes, les étudiants qui sortent avec leur diplôme, ils cherchent à donner du sens à ce qu'ils font et c'est ce que font les entreprises engagées.
Pour que ça soit concret pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de sociétés qui seront présentes à votre World Impact Summit?
Alors, par exemple, nous aurons, en termes de thématiques, on va essayer de traiter des thématiques très larges, donc des transports durables, de l'énergie, des déchets, de la consommation durable. Donc, on va, par exemple, mettre en avant la société Panafrica qui fait des chaussures. Donc, c'est de la mode. Et parce que la mode, c'est aujourd'hui la deuxième industrie la plus polluante dans le monde. Donc, il faut le dire aussi. C'est pas seulement on pense à l'énergie, on pense au pétrole, mais en réalité, tous les secteurs d'activité, au quotidien, notre consommation impacte écologiquement la planète. Donc, il y a ces entreprises de mode, donc notamment Panafrica. Dans le recyclage et dans le déchet, dans la gestion des déchets, on a Phoenix, qui est un des acteurs montants de ce sujet. Dans les énergies, nous aurons Valorem, qui est un acteur qui installe des parcs solaires, des parcs éoliens. On va traiter ces thématiques. Dans les transports, on met en avant une solution de scooter électrique dans les villes en libre-service. Donc, c'est des services qu'aujourd'hui, notamment pour les trottinettes, posent quelques problèmes. Mais sur l'aspect scooter, qui sont régulés par le code de la route avec une plaque d'immatriculation, ça marche différemment et ça marche plutôt bien. Voilà, ce sont toutes ces innovations, en tout cas ces solutions qu'on veut porter et mettre en avant à l'occasion de ce sommet sur la place des Quinconces.
Mais une question économique, plus que morale, se pose. Comment on concilie croissance économique et respect de la planète? Où est-ce qu'on vous êtes décroissant?
Alors, décroissant, non. En revanche, je pense que la volonté d'être... Enfin, disons que de définir la croissance comme un objectif est une erreur. La croissance est un fait, la croissance de la population est un fait. Donc, de fait, quand la population augmente, il y a de fait une croissance économique qui est générée par le fait que la consommation globale augmente. Maintenant, moi, je crois qu'aujourd'hui, les entreprises, elles doivent se positionner en tant qu'acteurs générant de la croissance pour elle-même, mais globalement, est-ce que ça doit être un objectif, la croissance ? J'en suis pas certain. Et non, je ne suis pas décroissant, mais je pense qu'une autre croissance est possible. Je dirais qu'aujourd'hui, on a une économie circulaire qui peut se mettre en œuvre où le déchet est une ressource et on va plus extraire de nouvelles ressources pour produire, consommer et maintenir notre niveau de vie. Donc voilà quel est l'enjeu, c'est de faire en sorte que demain, on extrait moins de nouvelles ressources naturelles et qu'on utilise ce qu'on a déjà extrait en très grande quantité.
Un mot de vous, Nicolas Pereira, parce que vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez passionnant. Vous êtes vous-même chef d'entreprise, vous avez lancé Solilène, une plateforme de financement participatif qui permet de soutenir des projets de développement, notamment en Afrique. Comment ça fonctionne ?
Alors effectivement, on est inscrit nous aussi dans cette démarche d'impact positif.
Oui, j'espère, oui. Je me doute bien que vous n'êtes pas dans le pétrole. Et que...
c'est important
alors,
de préciser.
J'ai un fonds d'investissement.
C'est important de le préciser. On a créé, effectivement, j'ai créé il y a 2 ans, une plateforme qui permet aux gens, en particulier, de financer des projets à impact positif, essentiellement en Afrique, pour l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, mais maintenant aussi en France, sur le développement des énergies renouvelables, les transports durables. Donc, on peut prêter de l'épargne, qui est rémunérée entre 3 et 7% en fonction des projets. Donc, c'est bien rémunéré pour certains projets.
Ah oui.
Ça permet, effectivement, de suivre très concrètement l'impact de notre investissement, de notre épargne, et donc de ne pas laisser son argent à la banque dormir sans savoir à quoi il sert. Et je crois que c'est un des enjeux aussi pour les années futures, pour les entreprises, c'est de démontrer, de faire la preuve de leur impact et que les consommateurs, ou en tout cas les épargnants, s'ils sont des consommateurs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils font attention à ce qu'ils consomment et à limiter leur impact, demain ils seront aussi des épargnacteurs, c'est-à-dire que l'argent qu'ils ont en banque, ben, ils en font quelque chose d'utile, ils investissent sur des choses dans lesquelles ils croient, et c'est exactement ce que nous faisons avec Solilène.
Merci beaucoup Nicolas Pereira, patron, je le rappelle, de Solilène et initiateur du World Impact Summit qui se tient à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 26 mai à Bordeaux. Europe 1 est partenaire de cet événement. Vous retrouvez d'ailleurs demain en direct de Bordeaux l'équipe de La France Bouge avec Raphaël Duchemin entre 12h30 et 14h.
Merci.
Europe 1. Mais il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec le journal du Fellini du News, David Doucan. Et puis la météo, quand la chaleur s'associe au soleil, c'est l'été qui sonne à la porte.
Il fait beau, il fait sombre, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
Avant le journal de 6h30, on fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Soleil pour tout le monde aujourd'hui.
Oui, avec pas mal de passages nuageux quand même. On a par exemple un ciel bien voilé ce matin de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France. Des brouillards pour le sud-ouest, alors qui vont se dissiper évidemment. En revanche, ce sera déjà bien ensoleillé pour tout l'est du pays dès ce matin. Du mieux pour cet après-midi, nuages et éclaircies pour tout le monde. Avec un petit bémol quand même, hein, toujours cette instabilité entre les Alpes-Maritimes et la Corse. Quelques ondées ce matin, mais cet après-midi des averses et même quelques coups de tonnerre.
Et il fait chaud.
Oui, 27 degrés à Nîmes, à Auge, 25 à Cognac, à Perpignan, 24 à Tours, Limoges, Paris. Je vous rappelle que c'est des températures prises à l'ombre. Donc au soleil, il va faire encore plus chaud. 23 à Bourges, 22 à Caen, 19 pour la plus basse à Nice sous ce ciel pluvieux. Et puis ce matin, la moyenne, elle va de 10 à 16 degrés du nord au sud. Un petit peu moins sur une partie nord, dans le nord-est ou encore dans le nord-ouest. Et puis j'ai cette petite info en plus. Qui
ça
se
ça
passe sur l'île d'Elbe, au large de la Sicile, où les hôteliers ont eu la bonne idée de proposer aux touristes de leur rembourser leur nuit d'hôtel, si dans la journée, il n'avait plus de 2 heures d'affilée. Une opération qu'ils avaient déjà faite l'année dernière, qui avait bien fonctionné, même s'il faut dire qu'ils
pour
ne prennent...
Pour les touristes ou pour les hôteliers ?
Pour les hôteliers, parce qu'ils ne prennent pas trop de risques, étant donné que sur cette île, sous un climat tempéré, il pleut très très peu. De mai à septembre, on n'a jamais compté plus de 5 jours de pluie. Vous imaginez bien.
On doit faire une petite délocalisation là-bas.
Ouais, ah bah moi, je vais en faire une toute seule.
Vous avez raison, surtout que l'eau est à 25 degrés, température ambiante 30 degrés, de quoi vous donne envie d'y aller. En tout cas, c'est une belle opération.
Il y a un très bon club adult only pour vous. Là-bas.
Non, je réserve en sortant du studio. Merci beaucoup.
Merci Céline.
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 à la croisée des chemins de l'humour et de l'info. 2 heures de reportages, d'invités, mais aussi de séquences au suspense proprement haletant. Comme lorsque Céline Dacosta nous fait mariner avant de nous révéler le sujet qu'elle a choisi de traiter dans sa revue de presse.
Devinez, Mathieu, quel sujet j'ai choisi ? L'hypertension ou le Viagra ?
Le Viagra.
Oui.
Oh, incroyable, j'aurais jamais deviné. Eux sont beaucoup moins prévisibles, on les appelle les trois fantastiques. Politique, économie, médias, chaque matin ils vous offrent de l'actu une vision tout à fait unique puisque c'est la leur. Ce matin, au programme notamment La Poste qui se réinvente en transformant certains de ses bureaux en résidence senior.
Bon réveil à tous, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Et pour le journal de 6h30, le seul, l'unique, le David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Le Conseil de défense écologique, c'était l'une des annonces post-grand débat, première édition ce matin à l'Elysée, au menu climat, biodiversité, financement et un peu de politique aussi à quelques jours des européennes. Élection qui commence aujourd'hui au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. En France, ce sera dimanche. On s'attend à une abstention record, notamment chez les jeunes. Alors, comment mobiliser les 18-25 ans ? Reportage dans un instant. Et puis, des patients particuliers ont été passés au scanner. Il s'agit des œuvres d'art premiers du Quai Branly. Oui, oui, un vrai scanner médical pour des statuettes. Vous saurez pourquoi à la fin de ce journal.
Europe 1.
C'était la principale annonce d'Emmanuel Macron sur le sujet de l'environnement. Le Conseil de défense écologique promis par le chef de l'État lors de sa conférence de presse de sortie du Grand Débat. Il en présidera la première édition tout à l'heure à l'Élysée, en présence de 12 ministres. La date de ce premier opus ne doit rien au hasard. Les élections européennes, c'est dimanche. Virginie Riva.
Une verdisation opportuniste ? N'allez pas dire ça à ce ministre. Pour lui, l'écologie est un élément central du programme depuis le début. Sauf qu'au QG de campagne, on le reconnaît, la date du Conseil de défense écologique n'a pas été choisie au hasard. Dans la dernière ligne droite, les électeurs indécis, avec une forte conscience écologique, pourraient voter pour Yannick Jadot plutôt que pour Nathalie Loiseau, ce qui aurait comme effet de creuser l'écart entre La République En Marche et le Rassemblement National. Nous, on met toute notre force de conviction pour porter une écologie utile, renchérit Stéphane Séjourné, directeur de campagne. Un élément inquiète particulièrement. Samedi, des marches climat sont organisées dans toute l'Europe. Des images qui vont tourner en boucle tout le week-end, alors que les candidats seront, eux, tenus au silence pour cause de trêve électorale. Surtout, tout le monde a en tête la diffusion du film Home de Yann Arthus-Bertrand dans les derniers jours de campagne en 2009. Film qui avait concouru de l'avis de plusieurs sondeurs au succès électoral d'Europe Écologie Les Verts. Objectif aujourd'hui pour le gouvernement, marquer les esprits et mobiliser les jeunes. Ils sont très sensibilisés sur le sujet, mais ils ne votent pas, explique un ministre.
Virginie Riva pour Europe 1. Et vous le savez, les instituts de sondage anticipent tous une très forte abstention. Jusqu'à 59% des personnes interrogées affirment ne pas avoir l'intention d'aller voter. Et c'est encore pire chez les jeunes. Certaines enquêtes annoncent 77% d'abstentionnistes pour les 18-25 ans. Alors plusieurs associations étudiantes ont organisé hier un débat pour les jeunes, à la Maison des associations de Rennes. Trois thèmes abordés en 2 heures, écologie, citoyenneté et migration. Objectif, donner envie d'aller voter. Reportage François Coulon.
À quelques minutes du top départ, certains potassent leurs fiches fébrilement, première table ronde de leur carrière.
Merci d'être venu ce soir pour ce débat de la jeunesse.
Moyenne d'âge à la tribune, 22 ans, l'âge du franc-parler quand on attaque le thème des migrations.
Et c'est pas une crise migratoire, c'est une crise de l'accueil. La Méditerranée, c'est devenu un cimetière. Allez les voir à la frontière libyenne et dites-leur « Non, non, toi, tu vas mourir parce que t'es pas européen. » Nous, on se bat contre ça.
Quand vous êtes agressé par des mineurs isolés, monsieur, que dites-vous ? À partir de là, ce que nous proposons, c'est une politique de dissuasion de l'immigration.
On aborde ensuite l'écologie, puis la citoyenneté, débat retransmis en direct sur Facebook. Dans la salle, une centaine de jeunes plutôt séduits.
Il y a beaucoup plus d'idées qui sont évoquées que sur des débats télévisés. Ça me parle complètement, concrètement.
Dans la confrontation dès le début, tout de suite, quoi, on est dans le bain. Il y a une énergie qui n'est pas la même. On se reconnaît plus entre jeunes, c'est super.
Ça peut influencer votre vote dimanche ?
Oui, forcément, ça va un petit peu plus me toucher.
77% des jeunes de 18 à 25 ans ne comptent pas voter dimanche. À Rennes, le taux a légèrement baissé depuis hier soir. Rennes, François Coulon, Europe 1.
Et les bureaux de vote ouvrent déjà ce matin aux Pays-Bas, mais aussi au Royaume-Uni. Vous le savez, les Britanniques n'ayant pas réussi à se mettre d'accord pour sortir de l'Union européenne, les voilà contraints d'élire des députés alors qu'ils sont censés quitter l'Europe d'ici le 31 octobre. Et le parti qui domine les sondages de ces élections européennes est celui créé par le populiste Nigel Farage, c'est le Brexit Party, dont le nom résume le programme. Les heures de Theresa May semblent compter. Son plan de la dernière chance n'a convaincu ni la majorité ni l'opposition. Sa ministre des Relations avec le Parlement a démissionné hier soir. Nous développerons ce sujet tout à l'heure dans le journal de 8h. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial au Royaume-Uni. C'était censé être le grand Big Bang, la modernisation salutaire promise par Emmanuel Macron, la réforme du droit du travail. En particulier, le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement, sauf que, dans la réalité, plusieurs juges s'en sont déjà affranchis. Et aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris se prononce sur la conventionnalité du barème, une décision qui pèsera sur la jurisprudence
François Geffrier.
Depuis les ordonnances travail, en cas de licenciement abusif, un salarié qui était dans son entreprise depuis moins d'un an sait que les prud'hommes ne lui octroieront comme indemnisation qu'un mois de salaire, et encore c'est un maximum. À l'autre bout de l'échelle, pour ceux qui ont plus de 30 ans d'ancienneté, ce barème est limité à 20 mois de salaire d'indemnisation. Ces derniers mois, une quinzaine de tribunaux des prud'hommes ont refusé d'appliquer cette grille, s'abritant derrière trois textes que la France a signés, dont la charte de l'Organisation internationale du travail. Un argumentaire entendable, selon des avocats spécialistes du droit du travail que nous avons contactés, mais qui est justifié surtout pour des salariés qui avaient très peu d'ancienneté et qui se retrouvaient presque sans rien alors qu'ils venaient d'être embauchés. Si la Cour d'appel de Paris confirme aujourd'hui cette lecture du droit, cela devrait faire jurisprudence en attendant une autre décision, celle de la Cour de cassation dans quelques mois, mais cela ferait tomber, au moins provisoirement, la sécurité juridique qu'Emmanuel Macron avait voulu donner aux employeurs pour les inciter à embaucher.
François Geffrier du service économie d'Europe 1.
Il est 6h35.
Et maintenant, information Europe 1.
Oui, 4 personnes sont en garde à vue après le meurtre d'un lycéen à Saint-Denis. C'était en septembre dernier lors d'un affrontement entre bandes de cités rivales. Luigi, un adolescent de 16 ans, avait été mortellement touché par balle. L'affaire avait suscité une vive émotion. Guillaume Bier.
Au tout départ, c'est une banale altercation entre adolescents de cités rivales. Une broutille, un après-midi, des moqueries, des insultes. Mais dans la foulée, des jeunes du quartier Romain Rolland vont tirer quelques coups de feu en l'air chez leurs voisins de la cité Joliot-Curie, juste par provocation, persuadés qu'il y aura représailles. Et ça ne manque pas. Le soir même, ceux de Joliot-Curie, armés de barres de fer et battes de baseball, veulent se venger. Ils n'imaginent pas qu'ils vont tomber dans un guet-apens. À Romain-Rolland, ils sont accueillis par une rafale de Kalachnikov et des tirs de 9 mm. Deux jeunes de 16 ans sont blessés, dont Luigi, mortellement touché au cou. Dans ces quartiers impénétrables où règne l'omerta, il a fallu toute la minutie des policiers de la brigade criminelle pour remonter le fil et identifier des suspects. 8 mois d'enquête avant ce coup de filet mardi matin avec l'appui de la BRI et des policiers de Saint-Denis. Au total, 4 hommes d'une vingtaine d'années arrêtés, placés en garde à vue d'après nos informations. Leurs interrogatoires sont toujours en cours, à charge pour les enquêteurs de la PJ de réussir à établir le rôle présumé de chaque suspect et notamment savoir qui serait l'auteur du tir mortel.
Information signée Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Vous vous souvenez de cette promesse présidentielle, plus aucune fermeture d'école d'ici 2022 sans l'accord du maire de la commune, un engagement qui a redonné de l'espoir dans de nombreux villages de France, comme au Brézeux, dans le Doubs. Reportage Romain Oquet.
Dans les rues désertes du village, l'école reste le dernier lieu de rencontre pour les 500 habitants. Un établissement pourtant en sursis depuis 3 ans, faute d'élèves. Alors le possible maintien de l'école jusqu'en 2022, les parents osent à peine y croire.
Ouf, parce que
ça fait vivre le village, hein, parce qu'il n'y a plus que ça. Hein.
Ça paraît trop beau, après il faut voir dans les années. Quoi, hein.
Je reste un peu méfiante quand même. Pour l'instant c'est ouvert, mais chaque année au mois de septembre, on a toujours la même appréhension que l'école soit fermée.
Le maire préfère voir le bon côté des choses. 3 ans sans fermeture, c'est du temps pour essayer d'augmenter le nombre d'enfants dans la commune. Et Alexandre Monet a un projet, direction les hauteurs du village.
C'est un champ où on sait que des vaches mangent. Oh, mais d'ici 4-5 ans, il devrait y avoir 18 maisons à la place. Théoriquement, à peu près 40-50 habitants. Beaucoup, on espère, oui, avoir des enfants pour notre école.
Vous avez une idée ?
Une quinzaine, entre 15 et 20.
Un nombre d'enfants qui permettrait de dépasser les 28 élèves et d'éloigner la menace d'une fermeture. Au Brézeux, Romain Oquet, Europe 1.
Et concluons, mon cher Mathieu, ce journal par une première mondiale. Un scanner médical portatif déplacé dans un musée pour analyser des œuvres d'art. C'est ce qui s'est passé au Quai Branly cette semaine, où 150 statuettes d'Afrique, d'Océanie et des Amériques ont été passées au crible. Une technique révolutionnaire qui permet de voir la structure interne des objets. Reportage, Hélène Terzian.
Le patient est un peu particulier. C'est le plus vieux masque africain connu. Venu du Sénégal, il date du XVIIIe siècle. En osier tressé, il est orné de 2 cornes de bœuf. Mais que renferme-t-elle ? Philippe Charlier, directeur de la recherche et de l'enseignement du musée, dévoile les images après passage du scanner.
On a une visibilité du masque en 3 dimensions. Et on se rend compte qu'à la base des cornes, il y a une matière qui est dense, soit des graines, des petits cailloux, des fragments de textile, des choses qui renforcent son pouvoir magique potentiel. Le scanner nous permet de savoir sans détruire, sans ouvrir, ce qui permet de ne pas les désacraliser et de conserver tout le respect qui leur est dû.
Un moyen aussi de faciliter les prochaines restaurations, comme celle qui sera bientôt opérée sur ce masque en bois peint d'Amérique du Nord, explique Éléonore Kissel, responsable du pôle conservation et restauration.
Quand on a eu passé cet objet au scanner, ces images nous ont permis de voir où sont les galeries d'insectes qui traversent le masque de part en part et exactement où la restauratrice va pouvoir injecter du consolidant qui va venir combler les trous qui se trouvent au niveau du bois.
Les objets scannés auront désormais un double numérique, de quoi permettre aux experts du monde entier d'y avoir accès en quelques clics.
Reportage Europe 1 signé Hélène Terzian.
Merci beaucoup, c'était le journal de David Doucan. David, un journaliste indépendant bien sûr, dont la liberté de penser ne saurait être mise en doute évidemment, mais qui bon, en cette période de mercato, sait qu'il faut aussi se faire quelques amis, flatter l'ego de certains collègues puissants dans le métier comme Vincent Hervouette, l'éditorialiste politique de la matinale d'Europe 1, peut s'avérer payant, quitte à en faire trop. Je vous laisse seul juge.
Ça va Vincent ?
Bonjour.
Bonjour. Comment ça va ?
Oui, bien et toi ?
Formidable.
Bon, j'ai lu ton papier, j'ai adoré.
Non, faites pas trop, soyez plus fin. On passe à la météo.
Il est dépité.
Non, mais d'ailleurs, pas de commentaire.
Pas de commentaire.
Non. Il sort là. Adieu. La tête haute.
Il est triste, mais la tête haute.
Une belle journée. Soleil, mais pourquoi nuages ? Non, oublions. Soleil et température douce.
Oui, estivale même, vous pouvez le dire. Une belle moyenne de 20-27 degrés cet après-midi. On aura juste encore une instabilité entre les Alpes-Maritimes et la Corse avec des averses orageuses dans l'après-midi. Alors, on profite de ce temps clément pour les autres, car les averses, là aussi orageuses, reviennent par le sud-ouest demain vendredi. Alors, samedi, c'est surtout sur une moitié sud et sur le flanc est que ça sera perturbé. Quelques orages quand même entre les Pays de la Loire et la Picardie. Et puis dimanche, retour au calme sur la moitié nord, avec pas mal de nuages tout de même. Orage encore des Pyrénées à la région Rhône-Alpes.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, chaque matin les trois fantastiques vous décryptent l'actu. Aujourd'hui, vous découvrirez la nouvelle idée de La Poste qui cherche un second souffle, reconvertir certains bureaux de poste en résidence senior.
Bon réveil sur Europe 1, il est 6h41. Il est 6h42, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le Conseil de défense écologique, c'est l'une des annonces post-grand débat, première édition ce matin à l'Élysée, au menu climat, biodiversité, financement et un peu de politique aussi à quelques jours des européennes. Élections européennes qui commencent aujourd'hui au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, en France ce sera dimanche, et cette fois les sondages convergent, le Rassemblement National est en tête dans toutes les études devant La République En Marche, suivie par la liste Les Républicains. Enfin, les heures de Theresa May sont-elles comptées à Londres ? Son plan de la dernière chance n'a convaincu ni la majorité ni l'opposition. Sa ministre des Relations avec le Parlement a démissionné hier soir. Quant à son parti, les conservateurs, il risque de subir une lourde défaite ce soir. La presse britannique anticipe cette fois la démission de la Première ministre.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils ont le courage de poser les questions, toutes les questions, même celles qui fâchent, surtout Eva Rock.
Qu'est-ce qui symbolisait pour vous l'Europe ? Oh là là !
Oui, alors parfois, même les trois fantastiques sont fatigués. Mais aujourd'hui, ils sont au top. Promis, Eva Rock pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Eva, vous êtes si en forme ce matin, ne me dites pas que vous avez pris quelque chose, hein ?
Mais non, c'est du talc.
Vous me rassurez, parce que vous savez, dans le showbiz, on entend des choses. Bref, Mickaël Darmon, on commence par vous et la politique. Les grandes manœuvres de l'après-scrutin des européennes ont déjà commencé. Aujourd'hui, vous nous racontez ce qui se prépare à droite au lendemain du 26 mai.
Gérer la descente et l'atterrissage un peu rude, hein, redouté chez LR en ce trou d'air de fin de campagne, eh bien c'est la crainte effectivement du côté des Républicains. On en admet entre deux portes que l'effet Bellamy revient en boomerang sous l'effet de l'actualité. L'affaire Lambert et la législation anti-avortement en Alabama ont mis les questions de société à la une et les prises de position personnelles de François-Xavier Bellamy, eh bien ont créé un malaise selon certains responsables du parti. On est repassé du philosophe au conservateur de droite, dit l'un d'eux. C'est dommage. Dans la dernière ligne droite, Laurent Wauquiez a réuni les élus, les a motivés. Cette élection prépare les municipales, a-t-il dit. Des propos qui ont laissé dubitatif les élus qui murmurent. Eh bien, aux municipales, justement, on ne voudra pas assumer l'étiquette LR et voir Laurent Wauquiez intervenir dans cette campagne locale. Une approche résumée par une source en interne. On va avoir un président de parti assigné à résidence rue de Vaugirard. Au lendemain des élections européennes, eh bien, la question de la stratégie de la ligne politique décidée par Laurent Wauquiez, eh bien, sera assumée avec cette droite. colonisation donc, qui a également été assumée, la question se posera. Le contenu essentiellement identitaire de la campagne sera certainement mis en cause, d'autant que la droite a su exceptionnellement mettre ses divisions de côté pour soutenir la liste de Bellamy, mais les divergences devraient réapparaître assez rapidement.
Quelles sont donc alors les nouvelles lignes de clivage qui apparaissent ? Bellamy est un nouveau concurrent pour Laurent Wauquiez ?
Et pas que pour lui, Bruno Retailleau était déjà sur ce même créneau de la droite conservatrice façon Fillon, et voilà que Bellamy est arrivé sur ce terrain. Avec Wauquiez, ça fait 3 pour un fauteuil. Hein. Bruno Retailleau a déjà convoqué des militants pour juin pour pouvoir donc également rassembler. Idem pour Laurent Wauquiez qui a compris le danger, et à Bruxelles, Bellamy ne compte pas rester inerte. Bref, des cibles de choix pour Édouard Philippe qui leur a trouvé un nom, la droite, Trocadéro. La formule a fait mouche au point d'être adoptée par les responsables de LR eux-mêmes, et c'est devenu le concept maintenant de la droite conservatrice réunie en 2017, place du Trocadéro. En contrepoint, une autre approche a fait entendre sa voix lors du dernier meeting parisien au Palais des Congrès, porte-maillot. Gérard Larcher, Valérie Pécresse, Hervé Morin plaident eux pour une droite assumée mais capable de rassembler au centre et non pas lorgnant sur le Rassemblement National. Après un temps d'unité, la droite s'apprête à reprendre une activité normale, la division, avec une nouvelle affiche dans la future bagarre. Ce sera la droite Trocadéro contre la droite porte-maillot.
Une expression qui fera mouche probablement. Merci beaucoup Mickaël Darmon. On passe à l'économie avec vous, mon très cher Axel de Tarlet. La Poste va transformer certains bureaux en résidence pour seniors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Eh bien parce que la Poste, vous savez, a un problème de fond. C'est que sa raison d'être, comme on dit, est en train de se dérober sous ses pieds.
On s'envoie beaucoup de mails.
Voilà, et on s'écrit de moins en moins. Maintenant, une carte postale à Noël.
Vous avez pas reçu ma petite carte ?
Non, je l'ai pas reçu. Donc résultat, la Poste, c'est moins 6% de courrier chaque année. Et donc là, la Poste est face à un choix essentiel. Que faire ? Est-ce qu'on liquide son activité ? Ou est-ce que fort de son réseau, de ses 200 000 facteurs, on essaye de faire autre chose? Eh bien oui, donc la Poste a essayé de faire autre chose. Alors il faut se trouver une activité. Et donc elle a décidé de se tourner vers ce qu'on appelle la silver economy. Donc silver,
pour les personnes âgées, ouais.
Silver parce que c'est gris exactement, la couleur des cheveux gris. Pour essayer de répondre donc à ce nouveau besoin d'une société qui vit, où les gens vivent de plus en plus vieux et de plus en plus isolés. Et donc face à cette nouvelle demande, la Poste a deux atouts. D'abord elle a un réseau, un fantastique réseau avec des facteurs qui passent chez vous 6 jours par semaine, 6 jours sur 7. Et le deuxième atout, justement, c'est ce capital sympathique. Quand on sonne chez vous, vous demandez qui c'est, et si on vous dit c'est le facteur...
Surtout
vous...
Eva, parce qu'elle a une relation un peu particulière avec son facteur.
Avec son facteur,
et souvent, il lui apporte les plis vraiment.
Non, mais il y a peu de personnes à qui on ouvre la porte de chez soi spontanément. Et bah, parmi ces peu de personnes, il y a le facteur. Donc vous voyez, il y a un capital sympathie, une confiance qu'utilise aujourd'hui la Poste, justement pour essayer de rompre l'isolement des personnes âgées et d'en faire un business pour essayer de faire vivre cet établissement. Donc, faute de livrer du courrier de plus en plus, les facteurs proposent des services d'aide à domicile pour les personnes âgées, que ce soit livrer des repas, livrer des médicaments. Et puis, il y a tout ce nouveau service qui s'appelle « Veiller sur mes parents ». Il y a beaucoup de publicité, notamment à la radio, où le facteur s'assure quotidiennement qu'une personne isolée et âgée va bien.
Mais l'aide à la personne, c'est un métier aussi, Axel. Il va falloir former des gens.
Alors, elles le sont. Mais ce sont avant tout, ils alertent. Ce sont souvent les enfants de ces personnes âgées qui, pour 30 euros par mois, donc payent les facteurs. Et si jamais le facteur constate ensuite, il alerte soit les services sociaux, parce que de temps en temps, ce sont les collectivités qui missionnent la Poste pour s'assurer qu'une personne isolée va bien, etc., qu'elle n'a pas besoin d'aide. Et donc, le facteur joue simplement le rôle d'alerte. Mais vous avez la même problématique avec les bâtiments. La Poste se retrouve aujourd'hui à la tête d'un patrimoine immobilier totalement surdimensionné, parce qu'autrefois, d'ailleurs, elle logeait souvent les facteurs. Donc, il y a beaucoup de logements de fonction. Il y a aussi beaucoup de centres de tri qui sont aujourd'hui. Cet immobilier est souvent au cœur des villes. Donc là encore, qu'en faire ? Le vendre, le liquider ou essayer de le valoriser dans le cadre de cette silver economy ? Et bien justement, c'est le choix de la Poste avec ses 14 bureaux de poste qui sont au cœur des villes moyennes, les plus belles, Perpignan, Metz, Roubaix, Brest, etc. et qui vont être transformés. Alors on n'a pas le détail encore parce que la Poste cherche un partenaire là-dessus. D'ailleurs, appelle... si vous avez des idées. Mais l'idée, ce n'est pas d'en faire des EHPAD, parce que ce ne seront pas des bâtiments médicalisés, mais des résidences adaptées aux personnes âgées.
Et est-ce que ça marche, la silver economy ?
Ça porte ses fruits, ça ? Alors, l'idée est géniale. Pour l'instant, ça peine à décoller. Écoutez, veillez sur mes parents. Alors, remarquez, la Poste joue carte sur table. Il dit, en deux ans, il n'y a eu que 7000 contrats de signés. Mais bon, il faut espérer que ça marche parce que la Poste est un immense paquebot, 70 000 facteurs, 200 000 salariés. Et c'est vrai, moi, je persiste à croire qu'elle a un atout. Ouais. Elle a toutes les clés pour répondre à cet isolement, via cette proximité, pour répondre à cette problématique d'isolement.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon.
Axel de Tarlet, je vous présente.
Je finis par vous confondre. Vivement la fin de saison.
Vous me confondez ou pas?
Non, je ne vous confondrai jamais, Eva.
Je vous propose de regarder un des sujets qui est étonnant dans Envoyé spécial ce soir sur France 2 à 21h. Ça s'appelle « Le business de nos émotions » ou « Comment les grandes marques et les enseignes de supermarchés passent au crible nos émotions pour mieux nous cibler et nous faire consommer, évidemment. » Passage en revue des nouvelles techniques utilisées.
Onde cérébrale, fréquence cardiaque, expression du visage ou encore analyse de la voix.
Ah, j'en ai vraiment marre, ça suffit maintenant.
Ce sont les nouveaux outils d'un marketing qui veut tout savoir de vous avant que vous ne le sachiez vous-même.
Alors, à se demander si on n'est pas des cobayes coincés dans un film de science-fiction. Alors, petit exemple de ce qu'on peut faire avec nos émotions. Casque connecté sur le crâne, un vigneron va goûter un de ses vins. Et ce qui se passe dans son cerveau va dessiner une courbe en temps réel sur une tablette, une courbe qui est analysée par un scientifique.
Tout ce qui est au-dessus de 10, c'est les émotions positives. Tout ce qui est en dessous de ce seuil de 10, c'est les émotions négatives. Donc là, vous êtes parti sur une expérience à 12. Et là, vous avez eu plutôt une constante. Ce qui est intéressant, c'est ce pic-là qui correspond à votre deuxième mise en bouche, qui pour moi était plutôt positive. Donc, on est sur une expérience très favorable.
Heureusement, c'était son propre vin. Vous imaginez si la courbe avait dit le contraire. Rechercher le plaisir du consommateur, stratégie diabolique qui passe donc par les émotions. Logique, parce qu'on, quand on sait que 80% de nos actions sont commandées par ces mêmes émotions. Alors, positive évidemment, mais pas toujours. Et même en cas de colère, figurez-vous que les experts du marketing ne sont jamais très loin.
Ça fait une dizaine d'années à peu près que dans les services clientèle, donc quand vous téléphonez pour vous plaindre de quelque chose ou pour demander un renseignement, si vous avez une voix qui est détectée par les algorithmes, donc par les machines, plus colérique qu'une autre personne, eh bien vous allez être prioritisé, c'est-à-dire que vous allez passer devant cette personne.
Ah, donc il faut plutôt crier quand on appelle.
C'est un conseil qu'on peut donner, oui.
Ça, c'est incroyable, je l'ai remarqué personnellement. Oui, moi qui suis, horrible. Vous le savez, un gentil garçon, j'ai remarqué que pour obtenir quelque chose quand vous téléphonez à une hotline, il faut gueuler. Si vous êtes gentil, si vous êtes poli, ça ne marche jamais, vous patientez pendant des heures, on vous renvoie jamais au bon service. Si vous gueulez très fort, tout à coup, tout s'active.
En revanche, avec moi, ça ne marche pas, donc vous n'êtes pas obligé de me hurler dessus, vous savez.
Si, avec vous, ça marche très très bien.
En clair, dis-moi ce que tu ressens, je te dirai ce que je te vends. C'est un très bon sujet qui fout un peu la trouille, mais on ne va pas se mentir. Voilà. Mais j'ai bien tenté de me rassurer en me disant que pour l'instant, il fallait accepter la plupart du temps d'être cobaye de ces grandes marques. Mais tout laisse à penser que bientôt, nos émotions seront quand même scrutées réellement malgré nous. C'est un excellent sujet à voir dans Envoyé spécial ce soir sur France 2 à 21h.
Merci beaucoup, Eva Rock. Merci, Axel de Tarlet. Mickaël Darmon, l'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains s'achève, l'heure du passage d'antenne approche avec celui qui est beaucoup plus qu'un journaliste, un acteur, un homme orchestre qui hier rendait, avec la complicité d'Hélène Zélani, un poignant hommage au Festival de Cannes.
Un homme et une femme. Hélène Zélani. Nikos Aliagos.
Le meilleur ou pas est à venir, le débrief de la matinale de Nikos Aliagos.
Il est 6h53. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains filent à l'anglaise, mais vous laisse-t-on en race campagne sans couteau suisse ni GPS? Bien sûr que non, car pour vous, j'ai mieux qu'un couteau suisse, un couteau grec. Expression qui lui va ravir, tant Nikos Aliagas est un homme multifonction. Chaque matin, il présente la matinale d'Europe 1, et chaque après-midi, il est aide-soignant à la résidence médicalisée, les pissenlits rieurs de Montrouge. Parmi ses patients, celui pour lequel il a le plus de tendresse est évidemment Laurent Cabrol, qu'il salue chaque matin dans son langage à lui.
Bonjour Lolo.
Taranini.
Ça va Lolo?
De beaux moments de complicité, volés au temps qui passe, aurait écrit Guillaume Musso. Alors seulement, à force de vouloir redonner confiance à Lolo, Nikos place la barre un peu trop. Le docteur vous a dit, Nikos, pour les lancements météo, faites simple, sinon ça crée la confusion dans l'esprit du patient.
Attendez, je me concentre sur les ondes cérébrales de Laurent Cabrol. Il va faire beau aujourd'hui, dit quoi le...
Comment ?
Oui, plus simple. Hein. Quel temps fait-il, Lolo ? Moins bas, voilà. Autre point sur lequel je me permets de vous reprendre ce matin, Nikos, du moins vous conseiller. Je vous suis vraiment très reconnaissant hein, de me concocter clé en main des petits sketchs cocasses avec les autres journalistes de la rédaction. Seulement, attention à ce que ça reste tout public. Hier, avec Anis Mbida, j'ai pas tout compris, mais ça sentait quand même l'humour de Backroom.
Ça va, Anis ? Oui, Nikos ? Tu danses ? Okay, hein. Tu préfères quel genre de danse ?
Écoutez, quand ça tourne, sans que ça tangue. J'ai rebu du tang récemment, c'est dégueulasse.
Oui, bon. Faut que ça reste au public quand même, votre truc. Hein. Sinon, c'est bien. Hein. Vous avez su gommer l'image un peu bling-bling qui vous collait en début de saison, suite à quelques exclamations malheureuses.
Bon, j'aime bien un peu de foie gras, là, en canapé chaud avec un petit cidre.
Là, on vous sent nettement plus près du peuple, hein, désormais, Nikos. Mais idem, attention à ne pas en faire trop.
Je mangerais bien un bolino.
Oh, oui, bah non. Déjà, ça n'existe plus, les bolinos. Donc.
Mais pas ici, figurez-vous.
Non, ça existe encore.
Anissé,
c'est pour ça que j'en parle.
Ultime petite remarque par rapport à l'émission d'hier. Je ne sais pas comment ça a pu se produire. Vous aviez peut-être regardé le sketch des nuls, les liaisons dangereuses.
Pourtant, ils ont été vos amis.
Ils ont été, ils le sont encore. Ils le seront à jamais. Si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi.
Je vous entends, Nikos.
Alors, Nikos, moi aussi, j'adore l'humour des nuls, mais notez-le, ne jamais se faire un sketch des nuls avant de présenter une matinale.
Europe 1, vous le révélez hier. Vous le révélez hier.
On l'a fait tous.
On l'a fait tous.
Elle est assez rare, d'ailleurs. Mais...
Ah, pas tant que ça.
Ah bon, tout de suite, il faut la rectifier tout de suite. Ce que voilà.
Fait. Hop là, j'ai fait.
Moi, j'en fais tout le temps dans les rappels des titres. Ah ouais. Je m'en rends compte juste après. Mais je vais pas dire, oh là, j'ai fait une erreur.
Maintenant, c'est trop tard.
Au moins, vous vous en rendez compte.
Oui.
Ah, je vais mieux vous écouter, Mathieu.
Oui, écoutez.
Ah
ouais.
Merci, les amis. Merci.
Merci à vous.
Reposez-vous bien demain. Bonjour, oui. Céline Dacosta.
Bonjour, Nikos.
Bonjour, Laurent Cabrol.
Nikos, ça va ?
J'ai pas écoutez, autant que vous, mais j'ai essayé de saisir le petit message.
Je pense que le micro a été ouvert un peu tard. Était,
voilà,
on a entendu que la fin.
Bon, vous aviez promis du beau temps aujourd'hui.
Oui, bah
et vous
oui.
Aviez raison.
C'est la raison pour laquelle nous sommes en joie. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent.
En joie.
Oui, en joie. Heureux.
Il y a de la joie.
Ceux qui nous écoutent.
Bonjour les
Irolèles. Ça y est, vous
avez fini. Pardon.
Non, mais parce qu'effectivement, c'est une journée d'été, il faut en profiter. Une journée estivale en raison des températures. Bien entendu, 28 degrés dans le Lot et en Tarn-et-Garonne cet après-midi, 27 à Toulouse, 26 à Bordeaux, 25 à Lyon, 24 à Paris, Clermont, Nantes, Rennes, Poitiers, 23 à Marseille, Dijon, Lille, 22 à Colmar, 21 à Caen et 20 degrés à Nice. Et oui, Nice, la ville la moins chaude, tout simplement parce que nous avons des entrées maritimes.
C'est gris sur le festival de Cannes, il paraît aussi.
Bah oui, c'est le vent marin et il sera encore là ce matin et même, non, ça va se dégager cet après-midi quand même. Ouais. Alors, un ciel dégagé ce matin sur l'ensemble des régions, sauf Nice, et la région, la Côte d'Azur, mais le ciel est pour l'instant, ça va bien, et au fur et à mesure, dans la journée, le voile va s'épaissir, c'est un peu la promesse de l'aube, à savoir que déjà, dans le courant de la journée, eh bien, nous allons devenir de plus en plus sous l'emprise d'un temps orageux, on y reviendra tout au long de la matinale, les premiers orages éclateront peut-être, cet après-midi, entre la région nantaise, l'Anjou, la Normandie, la Picardie et le Pas-de-Calais, mais c'est vraiment pour en parler. Il n'y a pratiquement aucune chance pour que vous en ayez un sur la tête. De toute manière, les orages seront là demain, en force sur les régions du Sud, mais profitons de cette journée.